Donc, ça fait plaisir de revenir à l'Évol et de voir tout le monde qu'on connaît et de, c'est un peu fort, hein? Et de faire la connaissance de ceux qu'on ne connaît pas. Si vous ne me connaissez pas, ce n'est pas grave, dans ce cas, je ne vous connais pas non plus. Hein? Mais je suis votre frère et en Christ. Je suis donc un Écossais. Ce n'est pas ma faute, hein? C'est parce que je suis né en Écosse. Mais je suis né de nouveau, amen. Et je marche vers ma patrie. Et nous réalisons que très bientôt, nous allons voir Jésus, notre Sauveur, face à face. Donc, merci Georges, hein? Mais je peux le boire avec confiance maintenant. Hein? Ok. Et on est très content de revoir Joseph et Ruth, mon ami Claude et Suzanne, et tout le monde. Hein? Et Joseph, et on ne s'est pas vu, la dernière fois qu'on a vu Joseph, c'était un enterrement. Mais ce matin, ce n'est pas un enterrement, on est en train de réjouir dans la présence du Seigneur. Amen. Là, depuis la dernière fois que je suis venu, j'ai eu un petit problème. J'étais victime d'un virus, j'avais le visage paralysé et je ne pouvais même pas fermer l'œil. J'étais obligé de boire le thé avec une paille. Hein? Et même aujourd'hui, c'est la première fois que j'ai joué le saxo depuis le mois d'août. Alors là, il y avait quelques petits canards supplémentaires parce que j'avais pas la pression, j'avais pas la puissance dans les lèvres pour tenir le bec. Hein? Même j'avais pas la force pour embrasser Jocelyne comme il a fallu faire. Hein? Donc, mais maintenant, ça va beaucoup mieux par la grâce de Dieu. Amen. Je sais qu'ici à la chapelle de l'Espoir, et que vous êtes un peuple qui prie. Amen. Vous êtes un peuple qui prie. Et en effet, il est si important, il est si nécessaire pour l'enfant de Dieu de prier. Et même l'apôtre Paul, il nous conseille de prier sans cesse. Alors, dans la voiture, on doit prier. Il faut dire que quand les gens viennent dans ma voiture, ils prient, hein? C'est vrai. Alors là, donc, parce que j'ai tendance de faire un peu de zigzag, hein? Et donc, on prie à notre travail, on prie dans la cuisine, on prie sans cesse. Et dans la première lettre de Paul à Timothée, et l'apôtre lance un appel à la prière. Il dit à Timothée 2, le premier verset, il dit, « Je demande en tout premier lieu que l'on prie, que ce soit des prières d'adoration, des requêtes ou des remerciements. » Et ce matin, nous remercions le Seigneur pour sa grâce, pour sa bonté et pour sa miséricorde qu'il manifeste sans cesse à vous, vers vous, envers vous et envers moi. Et donc, quand nous prions, on le fait avec ferveur, on le fait avec enthousiasme. Et bien sûr, on demande beaucoup de choses. Seigneur, donne-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, utilise-moi dans ton service. Et le lendemain, on recommence. Seigneur, tu connais ma situation. Tu connais mes difficultés. Tu connais ma maladie. S'il te plaît, Seigneur, réponds à ma prière. Et c'est très bien. C'est tout à fait normal de parler comme cela avec le Seigneur. Moi, je le fais et vous le faites aussi. C'est vrai. Mais souvent, c'est une conversation à sens unique, un monologue, au lieu d'être un dialogue. Et des fois, nous oublions que le Seigneur aussi, il aimerait bien nous parler. Donc, des fois, on doit être prêt à dire, comme le petit Samuel, « Parle, Seigneur, car ton serviteur, ta servante, écoute. » C'est vrai, on doit penser, on doit parler comme cela. En lisant la Bible, on peut constater que très souvent l'Éternel a parlé d'une manière claire, d'une manière nette au peuple d'Israël. Et quand Jésus a vécu ici-bas sur la terre et parmi les hommes, il aimait parler, il dialoguait avec ses disciples, il leur posait des questions. Et je suis certain que bien des fois, le Seigneur aimerait nous poser quelques questions concernant notre foi, concernant notre façon de vivre, concernant notre façon de faire. Et si vous êtes d'accord, on peut regarder ensemble quatre questions très importantes que Dieu a posées aux hommes. Quatre questions qu'il pose encore aujourd'hui à vous et à moi. La première question, c'est « Où es-tu ?» Deuxième question, c'est « Que fais-tu ici ?» Troisième question, « Tu vas où ?» Et la quatrième question, c'est « Que veux-tu que je te fasse ?» Alors, la première question se trouve dans le livre de la Genèse et le chapitre 3. En effet, c'est la première question qu'on trouve dans la Bible, le verset 9. La Genèse, chapitre 3, le verset 9. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Adam, où es-tu ? » Adam, où es-tu ? Attention, la Bible nous dit que personne ne peut se cacher devant la face de l'Éternel. Comme David l'explique si bien dans le psaume 139, « Où pourrais-je aller loin de toi ? Où fuir loin de ta présence ? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. » Donc, le Seigneur est au courant de tout ce qui se passe et sur notre petite planète bleue. On ne peut rien cacher devant l'Éternel. On ne peut rien lui cacher. Il nous voit. En plus, ce matin, Jésus est présent dans cette belle église, car il a promis que là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Et justement, il est dans cette belle église, il est dans ce lieu pour nous parler et pour nous faire du bien. Alors, si vous êtes vraiment content d'être dans sa présence, il faut dire Amen. On ne veut pas tellement. Oui, alors encore une fois. Alors, si on est content d'être dans sa présence, il faut dire Amen. Amen. Ah, ça c'est beaucoup mieux. Hein? Comme ça, le Seigneur, il est content. Hein? Mais quand l'Éternel dit à Adam, « Où es-tu ? » Il a voulu qu'Adam ait le courage d'admettre qu'il s'est caché à cause de sa mauvaise conscience, à cause de son péché. Hein? Et bien sûr, Dieu savait exactement où Adam et Ève se cachaient, et il a posé cette question afin que Adam soit conscient de sa situation dangereuse. Et chaque fois que nous prenons la Sainte Cène, comme on vient de faire, chaque fois que nous prenons le pain et le vin, Dieu veut que nous soyons conscients de notre situation devant lui. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul nous conseille, il dit que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Si vous voulez, en d'autres mots, l'apôtre dit qu'on doit examiner notre cœur, on doit examiner notre relation avec l'Éternel, et on doit examiner notre relation avec nos frères, avec nos sœurs en Christ. Amen. Et ensuite, nous sommes invités à manger le pain et à boire de la coupe. Donc, malheureusement, Adam, par sa désobéissance, il a rompu, il a cassé la relation intime qu'il avait avec Dieu. Et il est écrit, Genèse chapitre 3, le verset 8, que l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel au milieu des arbres et du jardin. Et l'Éternel a dit, « Adam, où es-tu ?» Aujourd'hui, donc, on parle encore d'Adam et Ève, mais on parle aussi d'Adam et Steve. Hein? C'est sûr que l'homme est tellement mélangé et que je ne veux pas dire trop à ce sujet, Mais c'est clair qu'il y a des hommes qui aiment les hommes un peu trop, et les femmes qui aiment les femmes un peu trop. Hein? Mais alors là, devant Dieu, nous sommes hommes et femmes. Moi, j'aime ma femme, et j'espère que ma femme elle-même. Tu m'as pas dit depuis un moment, hein? Oui? Tu m'aimes? Elle ne dit pas, hein? C'est terrible. Bon. On sait que les conséquences du péché sont toujours graves, hein? C'est vrai. Le péché sépare l'homme et de Dieu. Et voilà pourquoi, dans sa grâce, Dieu le Père a envoyé son Fils à notre rencontre. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternel, voilà. Et ce matin, nos cœurs débordent de reconnaissance, car nous avons l'assurance que nous sommes réconciliés avec Dieu le Père à cause du sacrifice de Jésus, notre Sauveur, sur la croix. Bon, la première question, c'est « Où es-tu ?» Et la deuxième question, vous rappelez ce que c'est? C'est quoi? C'est « Que fais-tu ici, hein? » Et « Que fais-tu ici ?» Dans les premiers livres des rois, le chapitre 17, on trouve un homme remarquable. Hein? Et c'est même assez étonnant. On tourne une page dans la Bible et soudainement, cet homme est là. Il est écrit, premier livre des rois, chapitre 17, le premier verset, « Élie !» Le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Achab, donc au roi Achab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. » Alors Élie, le prophète, est arrivé pour affirmer que Dieu, que l'Éternel est vivant. Et son message est si puissant que la nation d'Israël tout entière vient pour écouter ce qu'il a à dire. Il prêche, Élie prêche la repentance. Il dit au peuple de faire son choix, de prendre une décision. Il ne s'amuse pas, il ne mince pas ses paroles. Il dit, premier roi, premier livre des rois, chapitre 18, le verset 21, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Et si c'est Baal, allez après lui. » Il n'y avait pas le moindre compromis avec ce qu'il disait. Et Élie a pu conduire le peuple d'Israël à la repentance, de repentir de leur esprit de rébellion. Et pour finir, ils ont compris et le peuple entier a crié « L'Éternel, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Puis il le répète, c'est l'Éternel qui est Dieu. Puis ensuite, Élie a liquidé les 400 faux prophètes de Baal. Quel homme remarquable! On peut penser également à la course qu'Élie a faite devant les chars du roi Achab. Et en plus, il pleuvait fort. Alors il faut croire qu'Élie était en pleine forme physique. Il faut le faire, hein? Je connais pas mal de pasteurs, pas mal de serviteurs de Dieu dans plusieurs pays d'Europe. Pendant que nos voyages, on a fait connaissance de ces pasteurs. Et on a lu qu'Élie a couru 50 kilomètres devant les chars d'Achab. Mais la plupart des pasteurs que je connais auront de la peine à courir 50 mètres, hein? Et moi y compris, c'est sûr. Mais si nous regardons de plus près la vie d'Élie, on peut voir qu'il a eu des victoires, mais il avait aussi ses faiblesses et même ses craintes. Et par exemple, il avait peur d'une femme. Ça peut arriver qu'on a peur d'une femme, hein? C'est vrai. Bon, j'ai pas peur de toi, Justin. Je sais que tu m'aimes, hein? Même si tu ne le dis pas. Et il avait peur de la terrible Jézabel. Hein? Et elle a voulu le tuer, elle a voulu couper sa tête. Hein? Et alors, Élie est parti pour sauver sa peau. Hein? On peut noter que par la foi, Il a pu tenir ferme contre ces faux prophètes de Baal, mais par la crainte, il s'enfuit à cause d'une femme cruelle, à cause d'une femme méchante, une femme qui était une véritable et servante du diable. Il s'enfuit et il se cache dans une grotte. Et nous lisons 1 Roi 19, verset 9. Il entra dans la grotte et y passa la nuit. Soudain, la parole du Seigneur lui parvint qui lui disait, « Élie, que fais-tu ici ? Que fais-tu ici ?» Il est vraiment étonnant de voir combien d'hommes, les hommes choisis par l'Éternel, vont se cacher dans les grottes quand la vie devient trop difficile. On peut penser à Gédéon, on peut penser à Samson. Samson, il se cache dans les grottes de Étham, si je ne me trompe pas. Hein. Et même David savait bien que Dieu l'avait choisi, il savait bien qu'il allait devenir le prochain roi d'Israël. Mais bien entendu, ce n'était pas facile. Le peuple n'était pas prêt à le soutenir. Et des fois, le roi Saül a essayé, je pense deux fois, le roi Saül a essayé de le tuer et avec la langue. C'était vraiment pénible. Alors David aussi, il s'enfuit. Il s'enfuit, il est parti. Et lui aussi, il se cache dans une grotte, dans la grotte d'Adullam, si je ne me trompe pas, Joseph. Toi, tu es prof de la Bible, hein? Bon. Il me semble que c'était la grande spécialité des serviteurs de l'époque. Même une fois, Obadiah, il a caché son prophète dans deux grottes. Hein? Vous pouvez lire l'histoire en 1 Roi 18, verset 4. Il faut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de grottes, n'est-ce pas, dans lesquelles tous ceux qui sont appelés à servir le Seigneur peuvent se cacher. Hein? Là, c'était l'année passée, on a fait un culte dans les grottes de Valorbe. Alors là, c'est une petite répétition pour quand la persécution arrive, de faire les cultes dans les grottes. Hein? Mais, comme j'ai dit, il n'y a pas assez de grottes dans lesquelles tous ceux qui sont appelés à servir le Seigneur peuvent se cacher. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus subtil. C'est-à-dire, parfois, on se cache à l'intérieur de l'image que nous projetons de nous-mêmes. Hein? Et on pense qu'on est en sécurité, bien caché dans l'apparence extérieure qu'on donne de soi-même. Mais la Bible dit, l'homme regarde l'extérieur, les hommes regardent les apparences, mais Dieu, il regarde le cœur. Le Seigneur, il n'est pas concerné si j'ai une belle cravate ou si Joseph n'a pas une cravate. Hein? Là, la chose qui compte, il regarde notre cœur. Et ce matin, il regarde nos cœurs. J'espère qu'il sera satisfait avec ce qu'il voit. Hein? Amen. La Bible, donc, a dit que Dieu regarde l'extérieur. Donc, Dieu est venu à l'endroit où Élie était caché et il dit, que fais-tu ici? Et des fois, le Seigneur est dans l'obligation de nous adresser ces mêmes paroles, de dire, que fais-tu ici? Hein? Maintenant, je n'ai pas besoin de vous rappeler que la vie n'est pas toujours facile. Hein? Chacune, nous avons nos problèmes, nous avons nos maladies, nous avons nos petits bobos et nous avons aussi nos déceptions. Là, ma belle-mère, elle a 93 ans et elle connaît le Seigneur depuis des années. Puis, 93 ans, elle a chaque mardi une réunion de prière chez elle, à la maison. Hein? Puis il y a des voisins qui viennent prier. Mais ma belle-mère, donc, elle a été opérée vendredi. Elle a des blocages dans les artères de sa jambe. Et c'était une opération un peu risquée. Alors, on est allé hier et le chirurgien est très content avec ce qu'il a fait. Alors là, elle doit rester encore Et au jour, quelques jours, puis ensuite, rentrer à la vallée, à l'hôpital de la vallée. Après le culte aujourd'hui, nous allons monter à la chaude-fond. J'espère qu'il n'y a pas la neige, hein? On va monter à la chaude-fond pour voir un cher ami, Soso et Moser. Peut-être vous le connaissez. Soso, donc, il y a 3 ans, une de ses filles, Sarah, qui était mariée avec 2 enfants, Sarah, elle s'est jetée devant un train. Elle s'est suicidée, hein. Alors, donc, on n'a pas vu Soso depuis ces instants terribles. Donc, on va monter aujourd'hui, passer un petit moment avec elle. Et c'est vrai, des fois, nous avons le cœur brisé à cause d'une épreuve, Des fois, nous sommes dépassés par les événements. Et alors, nous essayons de se cacher dans une sorte de grotte à l'intérieur de nous-mêmes. Mais Dieu a dit quoi à son serviteur Élie? Il dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Donc, dans notre détresse, dans notre solitude, dans notre souffrance, la première chose qu'on doit faire, c'est de sortir de notre cachette, hein? De notre cachette, car le Seigneur est là et il nous attend. Et dans son grand amour, parce que le Seigneur, il nous aime, hein? Dans son grand amour, il nous fera voir sa gloire. Et ensuite, nous trouverons la délivrance, nous trouverons la paix, et nous trouverons la joie. Amen. Amen. Hein? Je suis content de voir mon ami Élie. Hein? C'est bien d'avoir un prophète ici à l'église. Hein? Bon, on arrive à la question numéro 3. La question numéro 3. Et on la trouve dans le livre du prophète Agé. Agé, hein? Et Agé est un des 12 prophètes mineurs, même c'est le 10e des prophètes mineurs. Il n'y a que 2 chapitres. Vous pouvez le trouver. Le livre du prophète Agé. Il faut dire que la nation d'Israël vient d'être utamis le verre d'eau, Georges. Ah, c'est derrière moi, ok. Je suis un peu sec quand je prêche, hein. Ok, ça c'est mieux, hein. Alors, il faut dire que la nation d'Israël vient d'être libérée de l'esclavage du passé. Le peuple avait grand espoir pour l'avenir, hein. Il y avait des richesses qui circulaient, on construisait des maisons, il y avait un tas de projets en train de se développer. C'était la belle vie. Mais dans cette situation de bien-être, cette situation de succès, de prospérité, Dieu parle à son peuple par la bouche du prophète. Il dit, considérez attentivement vos voix. Considérez attentivement vos voix. En d'autres mots, ça c'est la référence, c'était le premier chapitre, j'ai pas marqué le verset, Gisèle. Hein. Et c'est sûr que dans cette situation de bien-être, de succès, de prospérité, Dieu a parlé au peuple. En d'autres mots, il a dit, bon, considérez attentivement vos voix. En d'autres mots, il dit, réfléchissez concernant le chemin que vous avez pris. Où en êtes-vous réellement? Vous allez où? Hein? Et justement, c'est une prophétie qui est encore valable aujourd'hui, hein? Et qui peut s'appliquer à la situation actuelle, ici en Europe, même dans chaque pays du monde. Regardons Agé, premier chapitre, le verset 6, et c'est l'Éternel qui parle. Il dit, vous semez largement, mais vous récoltez peu. Il dit, vous mangez, vous buvez sans être rassasié et sans étancher votre soif. Il dit, vous vous couvrez d'habits sans être réchauffé et le salaire que gagne l'ouvrier va dans une bourse trouée. Hein? On peut dire que c'est une image de faillite absolue. Hein? Faillite absolue. Et dans le verset 9, verset 10, verset 11, on voit qu'avant que le peuple puisse mettre la faute sur quelqu'un, l'Éternel parle de nouveau. Et voilà ce qu'il dit. Attention. Écoutez, c'est moi le responsable. L'Éternel dit, c'est moi le responsable. C'est moi qui a permis cela. Et dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 55, le verset 8, il est écrit, « Vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. » Et c'est vrai que parfois, notre Père Céleste agit d'une façon tellement mystérieuse, hein, qu'on ne peut pas comprendre grand-chose. Des fois, ce qu'il fait dépasse totalement notre compréhension. Et il est bien possible que le peuple d'Israël avait de la peine à comprendre. Hein? Car si on regarde Agée, chapitre 1er, le verset 9, 10 et 11, on voit qu'en quelque sorte, le Seigneur dit, l'Éternel dit, « Si vous voulez savoir qui est le responsable de cette faillite, pourquoi vous avez froid, pourquoi vous avez faim et soif, eh bien, c'est moi qui ai permis cela. » Il dit, c'est moi qui est responsable. J'ai dû intervenir car votre prospérité est devenue plus importante que votre vie spirituelle, plus importante que votre relation personnelle et intime avec moi. Et voilà pourquoi encore aujourd'hui, notre bon Père Céleste qui nous aime, hein, doit parfois dire à son peuple, à vous et à moi, réfléchissez, où en êtes-vous dans votre vie spirituelle, considère attentivement vos voies. Ok, on arrive à la quatrième question. Première question, c'était quoi? Où es-tu? Et deuxième, c'était quoi? Que fais-tu ici? Bravo, Jocelyn, hein? Et c'est bien. Et la troisième question qu'on vient de regarder, c'était... Aïe, 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 donc, je vais vous donner mes notes après. Hein? La quatrième question, c'est que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Dans l'Évangile de Marc, chapitre 10, il est écrit que Jésus est allé dans la ville de Jéricho. Et en sortant de Jéricho, un mendiant aveugle, Bartimée, était assis au bord du chemin. On connaît bien l'histoire. Quand Bartimée a su que c'était Jésus de Nazareth qui passait par là, il s'est mis à crier, « Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. » Et il est écrit, le verset 49, que Jésus s'arrêta et il dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Et se levant d'un bond, il vient vers Jésus. Je me demande à quoi Bartimée a dû penser en s'approchant de Jésus. Hein? Probablement, il disait en lui-même, « Formidable, c'est merveilleux, Jésus va me toucher et je serai guéri instantanément. » Mais non. Tout d'abord, Jésus lui pose une question. Il dit, « Bartimée, que veux-tu que je te fasse ?» Que veux-tu que je te fasse? N'est-ce pas étonnant que Jésus a posé une telle question? C'est-à-dire, tout le monde voyait que Bartimée ne voyait pas, hein? Et Jésus aussi, il savait ce que Bartimée avait comme problème. Exactement comme il est au courant de vos problèmes, de mes problèmes. Et il dit à Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Donc, le Seigneur a voulu entendre la prière de Bartimée. Il a voulu entendre la prière de la foi et la prière qui venait directement de son cœur, hein? C'était clair. Et Bartimée a bien répondu. Il dit simplement, Seigneur, que je puisse voir, que je puisse retrouver la vue. Comme je viens de le dire, Jésus, ce matin, est présent dans cette église. Amen. Hein? Il est ici. Il connaît la situation de chacun, de chacune. Il sait ce qui ne va plus. Il est au courant de chaque moindre détail de notre vie. Et il veut que nous soyons prêts à ouvrir notre cœur et à lui parler, de lui dire exactement ce qui ne va plus et qui ne va plus. Hein? Qui a un téléphone portable? Personne. Il faut dire à Sunrise ou à Orange de venir ici à l'église, ils peuvent faire des contrats. Qui a un téléphone portable? Ah, tout le monde. Hein? Georges, toi, tu n'en as pas. Bon, on va arranger ça. Ton anniversaire, c'est quand? OK. Bon, il faut dire que personnellement, moi, j'ai un téléphone portable depuis plus que 60 ans. Ça vous étonne, hein? Mais j'ai un téléphone, mon cœur est lavé dans le sang de Jésus, hein? Et j'ai un téléphone rouge ici, hein? Et quand je veux parler avec le ciel, je prends mon téléphone rouge et je le contacte instantané avec le roi des rois. Et je peux dire à Jésus, tous mes problèmes, c'est tout ce qui ne va pas. Et là, maintenant, c'est un Écossais qui vous parle. Et la chose fantastique, je peux parler 24 heures sur 24 et c'est gratuit. Hein? Alors là, vos téléphones et portables et Swisscom ou Orange, alors à la fin du mois, vous avez une petite surprise quand vous recevez la facture, surtout les femmes. Hein? Surtout les femmes. Bon, alors là, je peux utiliser mon téléphone rouge 24 heures sur 24 et c'est gratuit. Hein? Je vais parler avec Jésus. Hein? Alors, on peut prendre notre téléphone rouge et on peut parler avec le Seigneur en direct. On peut lui parler maintenant pendant que je vous parle. Vous pouvez parler avec le Seigneur, avec votre téléphone rouge. On peut lui dire tout ce que nous avons sur le cœur. On peut parler de nos problèmes. On peut parler de nos souffrances. On peut parler aussi de nos déceptions. Hein? Et comme j'ai dit, Jésus est dans ce lieu. Hein? Et il nous dit tendrement, que veux-tu que je te fasse? Hein? Il adresse cette question à vous et à moi. Alors c'est à chacun, chacun d'ouvrir son cœur et de dire à Jésus ce que nous avons comme problème, ce que nous avons comme maladie. Et le Seigneur, il va répondre à notre prière. Mais c'est à toi et c'est à moi de répondre à sa question. Que veux-tu que je te fasse? Seigneur, nous sommes dans la joie de réaliser ta présence. Et Seigneur, nous voulons te dire à quel point nous t'aimons et nous sommes si reconnaissants pour tout ce que tu as déjà fait dans nos vies, dans nos foyers. Et Seigneur, nous désirons encore ce matin te parler franchement, de te dire ce qui ne va plus. Et Seigneur, nous sommes devant ta face et tu veux entendre notre prière exactement comme tu as voulu entendre la prière de Bartimée. Et Seigneur, nous avons besoin de ton aide. Je te demande, Seigneur, de bénir chacun, chacune dans cette église ce matin. Et tu entends nos prières, tu entends maintenant qu'on parle avec toi. Et Seigneur, nous te demandons de glorifier ton nom dans nos vies, dans nos foyers, dans nos circonstances, et de glorifier ton nom dans cette église. Merci pour chaque personne qui est présente. Et Seigneur, nous te demandons de souffler par ton esprit, de nous aider à regarder vers toi et de nous aider de compter sur toi. Bénis chacun, chacune, et que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Et que Dieu vous bénisse, hein, et une bonne semaine. Et attention avec le téléphone, hein, mais utilisez votre téléphone rouge, parce que Jésus, il nous entend toujours. Amen.